La sécurité intérieure relève au Vietnam du ministère de la Sécurité publique, créé sous sa forme moderne en 1962 par le président Ho Chi Minh. C'est ce que rappelle une commission parlementaire effectuée en juin 2011. C'est donc une police nationale qui assure au Vietnam la protection des biens et des personnes, le maintien de l'ordre public et la sûreté de l'État. Une gendarmerie a pourtant existé au Vietnam il y a plus d'un demi-siècle. Elle a été créée par les Français, mais c'était une force locale, indépendante de la gendarmerie coloniale. Son étude permet d'étudier les éventuels transferts de savoir et de savoir-faire, ainsi que leur réception par un environnement différent et dans un contexte particulier. Car effectivement, l'exportation du modèle gendarmique français dans le Vietnam des années 1950 s'effectue dans un cadre doublement original, effectivement donc un cadre colonial, et une guerre de décolonisation. Nous pouvons préciser ici que l'enquête a été rendue possible grâce à un fonds d'archives conséquent, donc 27 cartons des archives de l'armée de terre en Indochine, 45 cartons des archives de la gendarmerie en Indochine, soit un total de 72 cartons. Et ainsi, 4 champs d'études permettent de tirer la gendarmerie vietnamienne de l'ombre, 60 ans après cette expérience. Donc, je me propose de articuler en 4 points. Donc, tout d'abord, la genèse d'un projet ambitieux, le recrutement, puis la formation, et enfin, la question justement du central du terrain. Donc, il s'agit ici rappeler brièvement le contexte historique, politique et institutionnelle de cette création qui intervient au début des années 1950. Nous pouvons d'abord rappeler que l'arme est présente de longue date sur le territoire indochinois et qu'elle a déjà eu à assurer des missions d'encadrement et de formation de corps indigènes destinées à assurer des missions de force publique, à l'image des gardes civiles. Cependant, avant 1951, il n'avait alors jamais été question de créer une force publique nationale à l'image de la gendarmerie française. Et ce projet s'explique en fait justement par le fait que la France est alors en pleine guerre d'Indochine. Or, dans ce conflit, les forces terrestres d'Extrême-Orient sont confrontées à un déficit d'effectifs. Ainsi, l'idée de combler les effectifs manquants par un jaunissement des troupes, pour reprendre les termes alors employés, est envisagée dès la fin de l'année 1949. Et à cette date, les responsables militaires et politiques français décident, en accord avec le gouvernement vietnamien, de doter le Vietnam, le Cambodge et le Laos d'armées nationales sur le modèle français. Et c'est à la mission militaire française que revient la tâche de recruter et de former les soldats et les futurs cadres de l'armée nationale vietnamienne. Et dans ce contexte, la formation de la gendarmerie nationale vietnamienne apparaît comme un projet parmi d'autres. Et la chronologie de l'année 1951 montre bien que la mise sur pied de l'arme vietnamienne s'inscrit pleinement dans le processus de création des différentes unités de l'armée. Nous pouvons constater que la mise sur pied est rapide, puisqu'il ne s'écoule que 4 mois entre la signature de la convention spéciale et les débuts effectifs de la mission en septembre. De même, dès janvier 1952, soit 4 mois après que la mission a commencé son travail, s'ouvrent les premiers centres d'instruction. Et dans cette perspective, une mission d'encadrement et de formation est mise en place pour réaliser le projet. Et sur le terrain, la mission bénéficie d'une réorganisation du détachement de gendarmerie en Indochine. Et en théorie, la mission est organisée comme suit sur le territoire vietnamien. Donc il s'agit d'un organigramme réalisé donc à partir des sources qui étaient à notre disposition. Nous pouvons remarquer évidemment donc le système de maillage territorial avec différents échelons de responsabilité, puisqu'au plus haut niveau on trouve un état-major avec un chef de mission et ses adjoints. À l'échelon hiérarchique inférieur, nous voyons qu'il existe 3 missions régionales à la tête desquelles se trouve un officier. Et enfin, donc, le territoire de chaque mission régionale est justement divisé en sections de gendarmerie. Et nous retrouvons au plus proche du terrain donc un système de brigades et de postes. Et cette structure interne, donc fondamentale, n'évoluera pas en fait dans ses grandes lignes par la suite, sur la période 1951-1956. Et nous pouvons rappeler d'ailleurs que cette structure n'était pas créée ex nihilo, puisque cette mission va bénéficier et du matériel et de l'armement qui appartenait au détachement de gendarmerie, ainsi donc que son réseau de postes et de brigades, à partir duquel la mission va mettre en place son recrutement. Et donc, en effet, le recrutement ici, première étape fondamentale, est défini par des règlements qui ont évolué au cours de la période. Et il faut distinguer en fait le cas des sous-officiers de ceux des officiers. Concernant d'abord les sous-officiers, les candidats sont recrutés dans les conditions fixées par une instruction du 30 août 1951. Et donc le recrutement concerne avant tout des militaires ayant au moins 2 ans de service et réunissant donc des conditions précises, puisqu'il s'agit donc d'être vietnamien, d'être âgé de 25 ans, d'avoir au moins la taille de 1m60, de posséder une instruction élémentaire suffisante et de justifier d'une bonne conduite soutenue tant dans la vie civile que sous les drapeaux. Et donc le contrôle de l'ensemble de ces critères passe par la constitution d'un dossier qui est soumis à examen. Et donc ceci donc concerne les candidats militaires, mais précisons cependant que le recrutement fut étendu dès l'année 1952 aux candidatures civiles. Quant aux officiers de leur côté, donc, nous n'avons pas réussi à obtenir énormément d'enseignements. Nous savons néanmoins que la condition de base était d'appartenir au préalable à l'armée vietnamienne pour pouvoir postuler. Ce recrutement, pour résumer, fut mené en fait au ras du sol de manière continue à l'échelle nationale. Et il revenait ainsi donc au chef de poste de se charger de ce recrutement des futurs gendarmes égradés, simplement car ils étaient les mieux placés pour remplir cette mission, vu que c'était eux qui étaient au contact en fait des populations et qui étaient sur le terrain. Et donc selon un système hiérarchique donc propre à l'arme, les chefs de poste justement effectuaient ce recrutement sous la direction des chefs de mission régionale qui eux-mêmes devaient en référer aux chefs de mission centrale. Le but évidemment de ce recrutement était de garder, on peut s'en douter, les meilleurs candidats. Et justement, l'étude de l'examen des candidatures montre que la sélection était relevée et que le principal en fait critère de non-admission était en fait le manque d'instruction générale élémentaire, ce qui témoigne de l'importance justement de ce critère de sélection. Et dans l'ensemble, nous pouvons dire que les militaires de la mission d'organisation ont respecté à la lettre les règles de recrutement de la gendarmerie nationale vietnamienne. Justement, donc après ce recrutement, les candidats étaient convoqués au centre d'instruction, ce qui là encore n'allait pas sans poser quelques problèmes dans certains cas, puisqu'il est arrivé que des autorités locales refusent en fait de laisser partir leurs hommes. Et nous pouvons ici rapporter une anecdote brève, mais néanmoins intéressante, puisque en décembre 1952, au commissariat donc central de police à Hue, donc 2 candidats n'ont pas pu rejoindre le centre d'instruction de gendarmerie de Thu Duc, au sud-Vietnam, sur ordre de leur commissaire de police, qui leur a en fait interdit de quitter leur emploi et les a même fait enfermer le jour où les candidats devaient prendre l'avion. Au titre, je cite, que la démission des intéressés n'était pas encore acceptée. Donc il semblerait ici que les responsables de la mission aient parfois eu affaire à quelques mauvaises volontés pour réaliser leur recrutement. Et d'ailleurs, nous pouvons rappeler que la gendarmerie s'est trouvée en concurrence avec les autres corps d'armée qui donc étaient en train de se former au même moment et a vu quand même un certain nombre de bons candidats lui échapper. Quelle comparaison pouvons-nous faire de ce système de recrutement avec le modèle français ? Il est intéressant de constater que, justement, le système de recrutement des sous-officiers vietnamiens est quasiment identique à celui qui est en vigueur en France à la même époque. Puisqu'en France, les candidats à la gendarmerie, donc je le rappelle, adressent leur demande au commandant de gendarmerie. Le candidat se signale au chef de poste et dépose sa candidature, le dossier étant ensuite donc constitué, puis étudié par le ministre de la Défense nationale et des Forces armées qui prononce l'admission ou le rejet de la candidature. Et en fait, c'est exactement ce même système qui est mis en place au Vietnam. Il y a ici donc un transfert direct. De même, les critères retenus pour le recrutement dans la gendarmerie nationale et vietnamienne sont intéressants dans la mesure où ils sont inspirés par les plus anciennes lois de la gendarmerie nationale, donc celle du 16 février 1791 et celle du 25 pluviose en 5, donc 17 février 1797, ce qui nous ramène ici aux racines donc, de la gendarmerie nationale. Je rappelle que la première loi fixait comme critère de sélection le fait d'avoir au moins 25 ans, de savoir lire et écrire, d'avoir fait son service militaire et de fournir des preuves de civisme, tandis que la seconde introduisait l'exigence d'une taille minimum d'1m72. Et donc nous constatons que si nous reprenons ces différents critères, ces 5 critères sont exactement ceux retenus pour la sélection des candidats à la gendarmerie nationale vietnamienne. Et donc ces critères de sélection s'inscrivent en fait directement dans l'esprit de la tradition de l'arme française, tout en définissant justement un niveau d'exigence relativement élevé. Et ceci en fait allait de pair avec le but affiché par les responsables de la mission, donner à l'arme un effectif composé des meilleurs éléments possibles et effectif formé ensuite durant un stage de formation. Cette formation des élèves se déroule dans des centres d'instruction. Dans la période 1952-1955, quatre centres ont accueilli les élèves, des centres d'instruction donc de Tuduc au Sud-Vietnam, de Hanoï au Nord-Vietnam, de Touran au Centre-Vietnam et donc de Dalat en ce qui concerne les plateaux montagnards du Sud. Nous pouvons résumer justement l'existence de ces centres en tant que structure intégrée dans laquelle se déroule la vie quotidienne des élèves gendarmes. Donc dans ce centre, cette vie quotidienne est entièrement en fait centrée autour de la formation théorique des élèves. Et justement, il faut distinguer là encore sous-officiers des officiers. Et donc en ce qui concerne les sous-officiers, les élèves gendarmes, anciens militaires, suivent une formation dense et courte qui dure 9 mois. Et le système d'éducation des élèves est fondé en fait sur 5 grands piliers. Donc une aptitude générale, donc qui contient donc la conduite, la tenue, la manière de servir, les expressions étant placées en guillemets car ce sont celles qu'on trouve en fait dans les archives. De même, à cette aptitude générale donc, est liée donc, une instruction générale, d'une part en vietnamien, d'autre part en français. Nous pouvons voir qu'évidemment, en tant que force militaire, l'instruction militaire joue un rôle relativement important, puisqu'il est fait mention d'enseignement de tactique, d'armement et de tir. Enfin, il faut mentionner deux points supplémentaires. L'instruction technique propre à la gendarmerie, qui est en fait réalisée à partir de la connaissance des textes et aussi à partir de l'étude de cas pratiques. Et enfin, le reste de l'instruction porte, quant à lui, donc sur l'éducation physique, à laquelle nous aurions pu aussi ajouter des séances de 30 minutes par semaine d'instruction morale. Ces cours sont assurés par des instructeurs membres de la mission d'organisation. Et ces instructeurs, en fait, étaient désignés par le chef de mission. Et en fait, au sein des centres, se répartissent de manière, pourrons-nous dire, pragmatique, les matières à assurer au centre d'instruction. Et les rapports font apparaître d'ailleurs un niveau assez hétérogène chez ces instructeurs, qui constitue en fait la clé de voûte du transfert de savoir-faire entre la gendarmerie française et les élèves vietnamiens. De même, les méthodes d'enseignement sont quant à elles très scolaires, puisque les élèves suivent des cours durant la semaine. Il arrive parfois qu'un conférencier extérieur intervienne, à l'image de M. Dorgeval, conseiller à la cour, qui fit au printemps 1952 des conférences aux élèves du centre de Hanoï sur l'organisation judiciaire au Vietnam. En ce qui concerne l'instruction physique et au tir, celle-ci se déroule en revanche dans des lieux consacrés en dehors du centre d'instruction pour des raisons tout à fait pratiques. De même, les élèves, donc, de la même manière que les méthodes d'enseignement sont scolaires, les élèves en fait sont évalués au quotidien donc selon un système mixte. Durant leur stage, ils sont soumis à un contrôle continu strict. Et d'ailleurs, un rapport du chef de la mission Nord-Vietnam, rédigé en 1952, souligne l'importance accordée par les gendarmes français à la répression de la tricherie, puisque le chef d'escadron en question signale, je cite, « qu'une épidémie de copistes sévit actuellement à Hanoï ». Et il insiste sur la nécessité, là encore c'est une citation, de réprimer avec sévérité une pratique qui peut fausser l'appréciation que peuvent avoir les chefs de mission régionale sur la valeur des futurs gendarmes. Donc ici un véritable suivi des élèves. Et nous pouvons voir donc qu'à côté de ce contrôle continu strict, les élèves passent en fait un examen à l'issue duquel ils sont classés et qui décide de leur admission dans la gendarmerie nationale vietnamienne. En ce qui concerne les officiers, on peut résumer en disant que leur stage de formation prend, lui, un aspect totalement différent, puisque, en fait, ils ne sont pas répartis en classe, mais sont, en fait, envoyés en stage dans les sections et suivent, en fait, une formation pratique d'officiers de gendarmerie auprès des commandants de section. Là encore, pour faire une comparaison avec le modèle français, on peut affirmer que la formation des sous-officiers vietnamiens de l'arme était en fait similaire à la formation reçue par les sous-officiers de la gendarmerie française, qui se faisait, je rappelle, en France à l'époque, donc dans le cadre d'écoles et de centres d'instruction. Et d'autre part, le stage des gendarmes français, donc lui, durait 7 mois, donc quasiment l'équivalent donc des 9 mois, et durant lequel ces élèves recevaient une formation physique, militaire et professionnelle. Et on retrouve en fait ici la polyvalence de la formation de ces élèves. Néanmoins, donc, une fois formés, ces élèves gendarmes et officiers étaient placés sur le terrain auprès des gendarmes français. Donc quels furent les premiers pas de ces jeunes élèves gendarmes fraîchement sortis de leur centre de formation ? Pour répondre à cette question, nous devons revenir au texte fondateur du projet, donc la convention spéciale du 27 juillet 1951, qui définit les fonctions de l'arme vietnamienne et donc, a fortiori, les fonctions du gendarme vietnamien. Donc l'objectif de la mission est défini par l'article 11 de cette convention. Donc ici, je cite ici le texte qui apparaît sur l'écran. L'action de la mission d'organisation aura pour but essentiel la mise sur pied rapide d'une gendarmerie chargée de veiller à la sécurité publique, d'assurer le maintien de l'ordre et l'exécution des lois. Cette gendarmerie fera partie intégrante de l'armée nationale vietnamienne. Elle formera néanmoins un corps particulier entièrement distinct des autres corps de l'armée, tant par sa composition interne que par sa mission spéciale. Nous retrouvons ici en fait le triptyque fonctionnel sécurité publique, maintien de l'ordre, exécution de loi, qui ne sont autres que les missions définies pour la gendarmerie française par le décret organique de 1903. Plusieurs points communs apparaissent ainsi entre les deux armes. Certains transferts renvoient à une longue tradition, puisque le nom même de gendarmerie nationale renvoie au lointain héritage de la loi du 16 février 1791, qui donna alors ce nouveau nom à la maréchaussée. De même, on peut affirmer que la gendarmerie nationale vietnamienne est fondée dans l'esprit du décret du 20 mai 1903, puisque comme son aîné, la gendarmerie nationale vietnamienne exerce son action sur toute l'étendue du territoire, quel qu'il soit, et que comme son aîné, l'armée vietnamienne est une des parties intégrantes de l'armée. Elle constitue ainsi la force publique par excellence. Et on retrouve d'ailleurs une grande similitude dans la partie dans ses missions. Et justement, en action au quotidien, quelle fut donc l'action de ces gendarmes? Nous pouvons dire que l'idée principale, en fait, dans un premier temps, était d'assurer une transmission progressive des prérogatives des gendarmes français aux gendarmes vietnamiens. Et qu'à ce titre, la première mission des gendarmes vietnamiens était en fait de suppléer les gendarmes français sur le terrain. Ainsi, donc, quand ces gendarmes égradés sortent des stages d'instruction, ils sont affectés dans des postes mixtes, c'est-à-dire qu'ils vivent et travaillent en poste avec des gendarmes français. Et donc en fait, l'objectif affiché est de parfaire par la pratique l'instruction théorique qu'ils ont reçue au stage. Et d'ailleurs, le capitaine Kando, donc chef de la mission Nord, rappelait même que ces gendarmes devaient être placés, je cite, « en dressage » sous la direction d'un gendarme confirmé qui est seul habilité pour opérer dans les conditions réglementaires. Le terme dressage témoigne ici du caractère évidemment strict de l'apprentissage, même sur le terrain. En ce qui concerne les missions de ces gendarmes, on peut voir que celles-ci en fait sont très variées et que les sources montrent que les gendarmes vietnamiens ont été amenés à faire donc des missions de police judiciaire civile et militaire, donc auprès de l'armée vietnamienne, aussi des missions de police administrative, plus banalement des missions de police de la circulation, ainsi que rechercher des déserteurs et insoumis. Il lui arrivait aussi d'intervenir pour l'application des mesures du commandement militaire régional. Ainsi, donc, on peut penser ici à la surveillance en fait, des lieux publics fréquentés par les militaires. Enfin, en termes de police militaire, la gendarmerie vietnamienne pouvait donc aussi intervenir pour des missions de renseignement. Là aussi, nous retrouvons une mission caractéristique donc, de l'arme française, transposée dans contexte vietnamien. Et nous pouvons rappeler justement que ces missions se faisaient donc dans un premier temps sous la direction du personnel français, ce qui n'allait pas parfois sans poser quelques problèmes, notamment en termes de rapports hiérarchiques. D'autre part, les difficultés ont aussi concerné les militaires français, dans la mesure où plusieurs fois, à plusieurs reprises, les chefs de mission ont fustigé en fait le comportement de nombreux chefs de poste qui négligeaient en fait de former les gendarmes vietnamiens et préféraient effectuer le travail eux-mêmes. Enfin, d'autre part, certains chefs de poste négligeaient eux-mêmes la tenue des écritures et donnaient ainsi un mauvais exemple à la jeune gendarmerie vietnamienne qu'ils étaient chargés d'instruire. Et justement, la mention de l'exemplarité constitue un véritable leitmotiv dans les archives. Néanmoins, nous pouvons dire que l'expérience poursuit son cours et voit parfois de belles réussites. Et donc ici, je voudrais mentionner très brièvement donc, la mise sur pied des premières brigades vietnamiennes. Donc celles-ci, en fait, ont été créées durant le premier semestre de l'année 1953 au Nord-Vietnam. Donc il s'agit donc des brigades de Hanoï, de Nam Dinh, de Hong Gai et de Haiphong. Désolé pour l'accent un peu désastreux, mais on peut voir que donc, ces brigades, placées donc, au cœur du delta du Tonkin, donc région évidemment stratégique dans le cadre de la guerre, avaient un mode de fonctionnement qui différait de celui qui était en vigueur dans les postes mixtes, puisque dans ces brigades, les gendarmes étaient placés sous l'autorité d'un chef de brigade vietnamien, et non pas français, et en fait, le chef de poste français donc les postes conseillers étant évidemment présents dans cette région, était en fait faisait office de conseiller technique. Et en fait, donc tout le travail quotidien, rédaction des procès-verbaux, intervention dans les affaires, était vraiment faite par les gendarmes vietnamiens. Et en fait, le gendarme français, lui, en tant que conseiller technique, ne participait pas à la rédaction des procès-verbaux et il se contentait en fait d'intervenir a posteriori en corrigeant les éventuelles erreurs. Et en fait, concrètement, nous pouvons dire que cette brigade vietnamienne fonctionnait de la même manière que la brigade française, avec l'usage en fait de carnets et de registres de correspondance tout à fait identiques. Mais vraiment, là encore, un transfert, donc vraiment un héritage direct. Et enfin, nous pouvons voir donc que nous pouvons dire, pour conclure donc sur cet exemple, que ces brigades en fait ont vraiment, aux yeux des autorités françaises et même dans les archives, on s'aperçoit justement qu'il y a une véritable réussite de ces brigades, mais qui ne seront malheureusement pas étendues à l'ensemble du territoire en raison notamment de l'évolution de la guerre. Et donc pour conclure, nous pouvons dire que l'expérience de la gendarmerie nationale vietnamienne est originale, dans la mesure où elle s'est déroulée dans un contexte de guerre ouverte et où, malgré cela, le processus de transfert de savoir et de savoir-faire a néanmoins pu avoir lieu. Et donc, héritage direct, comme nous avons pu le voir, et adaptation au contexte local caractérisent cette expérience qui s'inscrit en fait ici dans la longue histoire de l'exportation du modèle gendarmique français dans le monde. Cependant, et ce sera ici donc, mon tout dernier point, on peut dire que contrairement à d'autres gendarmeries filles ou sœurs de la gendarmerie française, l'arme vietnamienne eut une durée de vie très brève et il n'en subsiste aujourd'hui pas les mêmes héritages que ceux qui apparaissent dans bien d'autres pays, comme le montrent ces deux journées d'études. Je vous remercie de votre attention.